Il y a toujours eu des gens bizarres. J'ai lu qu'au 19e siècle, les membres d'une secte qui croyaient au retour immédiat du Christ ont vendu tout ce qu'ils possédaient et se sont installés sur le toit de leur maison enveloppés d'un drap blanc. Une chose pareille est-elle vraiment arrivée ou est-ce un simple ouï-dire? Je ne sais pas. Mais, vu la crédulité généralisée du public, je ne serais pas surpris que certains fanatiques se soient comportés de cette manière. Mais c'est dément! Car pourquoi monter sur un toit? Le Seigneur ne peut-il pas prendre quelqu'un s'il est simplement dans la rue? Et s'il faut vraiment aller en hauteur, alors pourquoi ne pas être allé au sommet d'une haute montagne? Et à quoi bon tout vendre? Est-ce que ces gens s'imaginaient qu'ils allaient emmener leur compte en banque avec eux? Et puis, quelle est l'utilité du drap blanc? Tout ça n'a aucun sens. Pourtant, il semble que certains croyants de Thessalonique en étaient presque là. Ils ne travaillaient plus et passaient leur temps en occupation oisive à se mêler de ceux qui ne les regardaient pas. De plus, il semble aussi qu'ils vivaient au crochet des autres membres de l'assemblée qui n'osaient pas leur refuser le couvert. Je continue à lire dans le troisième chapitre de la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, nous en aurions eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Versets 7 à 10. Après s'être présenté comme un modèle à imiter, l'apôtre rappelle un principe de base selon lequel celui qui refuse de travailler n'a pas non plus le droit de manger. Cet enseignement n'était pas nouveau puisque l'apôtre l'avait déjà donné d'une part quand il était sur place et d'autre part dans sa première épître. La logique de Paul est simple. Quelqu'un qui a suffisamment faim travaillera afin de pouvoir acheter de quoi se nourrir. Le roi Salomon exprime la même pensée quand il écrit « La faim du travailleur est une bonne collaboratrice, sa bouche le pousse à travailler ». Dans une autre épître, Paul va jusqu'à dire que le chef de famille qui a la possibilité et la capacité de travailler mais qui refuse est pire qu'un infidèle. Je lis le passage. « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. » Ce n'est pas tout, car non seulement je dois pourvoir aux besoins de ma famille, mais j'ai aussi une responsabilité envers les pauvres. Beaucoup de passages, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, ordonnent aux croyants d'aider les démunis qui ne sont pas capables de se suffire à eux-mêmes. Par contre, personne n'est redevable à ceux qui sont trop paresseux pour travailler. Il y a bien longtemps, un été, j'ai eu l'occasion d'entrer dans un monastère parce que l'entreprise pour laquelle je travaillais y faisait des travaux. Eh bien, j'ai découvert que les pères, qui vivent absolument seuls parce qu'ils ont fait vœu de silence, sont peut-être des contemplatifs, mais ils bossent. Déjà, ils ne font pas la grasse matinée puisqu'ils se lèvent au milieu de la nuit pour les matines. Ensuite, ils scient et fendent leur bois pour se chauffer l'hiver. Ils tendent un jardin et fabriquent des objets dont certains sont vendus. D'autres étudient les plantes et les insectes, font des expériences scientifiques ou fabriquent du fromage, des liqueurs et je ne sais quoi encore. Aujourd'hui, la chartreuse est produite à Voiron à une échelle industrielle, mais à l'origine, elle était distillée de façon artisanale par des moines. En tout cas, ces gens-là ne sont pas des fainéants comme certaines mauvaises langues le prétendent et au travers des siècles, ils ont contribué à l'avancement du savoir et de la science. Marcher par la foi ne veut pas dire avoir la tête dans les nuages. Au contraire, c'est aussi avoir l'esprit pratique. Ici et là, j'ai rencontré des gens qui se disaient croyants, mais qui avaient une perspective des choses des plus bizarres. Ils essayaient de vivre selon les révélations particulières qu'ils disaient recevoir de Dieu. Comme ils fonctionnaient à un niveau irrationnel, il était impossible d'avoir une conversation raisonnable avec eux. Pour de telles personnes, travailler comme tout le monde à des heures précises est particulièrement difficile parce qu'elles doivent obéir à un patron qui n'est pas toujours un ange. Et puis, il faut se salir ou passer son temps à faire quelque chose de concret, ce qui à leurs yeux n'est pas très spirituel. Ce genre de fanatisme n'existe pas dans les textes sacrés. Même les prophètes de l'Éternel qui recevaient de véritables révélations gardaient toujours la tête sur leurs épaules et les pieds sur terre. L'apôtre Paul, qui est allé au troisième ciel, qui a reçu les secrets de plusieurs mystères, maniait aussi les ciseaux, les aiguilles et le fil à coudre, puisqu'il fabriquait des tentes afin de subvenir à ses besoins et d'aider les plus démunis que lui. Dans une autre épître, il écrit « Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. » Dans ces deux épîtres aux Thessaloniciens, où Paul parle de prophéties complexes qui auront lieu à la fin des temps, il est également très pratique. Les croyants qui espèrent le retour du Seigneur ne sont pas la tête en l'air à regarder le ciel, non! En attendant sa venue, ils s'affairent et travaillent. J'ai lu une histoire intéressante à ce sujet. Quelque part dans le nord de l'Italie, on peut visiter un immense domaine qui appartient à un homme très riche qui a ouvert sa propriété aux touristes. Un jardinier horticulteur s'occupe de la propriété qui est toujours impeccable, très bien entretenue et un régal pour les yeux. Un visiteur a eu avec lui la conversation suivante. « Vous êtes un artiste et vous faites un travail admirable. Le propriétaire doit être content de vous. Oh ? « Mais je ne le vois jamais. Ça fait 10 ans qu'il n'est pas venu. Comment ? 10 ans ? Mais alors, pourquoi vous donnez-vous tant de mal ? Parce que je m'attends à ce qu'il vienne, je ne sais pas quand, mais je fais comme s'il revenait aujourd'hui. » Ce jardinier ne scrutait pas l'horizon pour voir si son maître arrivait. Il était occupé à tailler, à sarcler, à désherber, à bêcher et à planter. Il travaillait sans relâche. C'est exactement ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Ils doivent espérer la venue du Seigneur, dont le retour est imminent, mais en attendant, ils sont tenus de bosser dur afin de gagner leur croûte. Je continue le texte. « Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. » Verset 11. Paul fait ici un jeu de mots. Il dit en substance qu'au lieu d'être occupés, certains s'occupaient. C'est-à-dire qu'au lieu d'exercer une activité honorable, ils se mêlaient de ce qui ne les regardait pas. Dans une autre épître, l'apôtre encourage les jeunes femmes à se marier parce que autrement, dit-il, elles prennent l'habitude de ne rien faire et elles passent leur temps à aller de maison en maison et pas seulement pour n'y rien faire, mais encore pour se répandre en commérage, se mêler de tout et parler à tort et à travers. Avec ce genre de conseil, je ne pense pas que Paul recevrait une médaille de la part des mouvements pour l'émancipation de la femme. Malgré les exhortations précédentes que l'apôtre a déjà données, d'abord en personne, puis par écrit dans sa première lettre, on lui rapporte donc que les membres de l'Église, certains d'entre eux, disons, persistent à ne pas travailler et en plus perturbent la vie des autres. Ils sont un peu comme la mouche du coche. À ces nouvelles, Paul est inquiet car, comme chacun sait, il suffit seulement d'une pomme pourrie dans un cajot pour contaminer les autres. Et Salomon écrit « Les mouches mortes gâtent et font fermenter l'huile parfumée ». Un brin de folie a plus d'effet que la sagesse et une bonne réputation. Ces gens qui se mêlaient des affaires des autres, qui répandaient des ragots, créaient des discordes et en plus pesaient lourd sur les cordons de la bourse d'une église qui devait déjà faire face à de sévères persécutions. Tout le monde en souffrait. Je continue le texte. « Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. » Versets 12 et 13. L'apôtre lance un appel solennel à ses oisifs, les exhortant à cesser leur caquetage de rue et à se trouver un boulot comme les fidèles de l'Église. En même temps, il s'adresse aux frères fidèles qui menaient une vie normale pour les encourager à continuer à pourvoir aux besoins de ceux qui méritaient qu'on les aide. En effet, on peut s'imaginer qu'après s'être fait pigeonner à plusieurs reprises, ces braves Thessaloniciens auraient pu vouloir mettre tous les indigents dans le même panier et dire « Maintenant ça suffit, tout le monde dehors !» et garder leur porte-monnaie fermée. Mais Paul rappelle aux croyants sérieux qu'ils doivent apprendre à faire la part des choses et donner à chacun son dû, rien à certains et beaucoup à d'autres. « Je dois aimer mon prochain comme moi-même et venir en aide à celui qui le mérite. » Je lis quelques passages de l'Ancien Testament. « Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain, « Va-t'en et reviens plus tard, demain je te donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. » Le juste a pitié, il est généreux. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Il est bon que l'homme prête généreusement et qu'il gère ses affaires avec équité. On le voit donner largement aux indigents. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Honoré de tous, il peut relever la tête. Celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin, mais celui qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. » Fin de citation. Dans un évangile, lors d'un banquet auquel Jésus avait été convié, au lieu de remercier son hôte, il lui a dit « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou de riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et te payer ainsi de ta peine. Non, si tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés, des aveugles. Si tu fais cela, tu en seras très heureux, précisément parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Et Dieu te le revaudra lorsque les justes ressusciteront. » On peut être certain que si Jésus a fait ces remarques, c'est parce que celui qui avait organisé ce repas avait des mobiles foireux. Pour encourager l'unité de l'Église, l'apôtre Paul exhorte donc les désœuvrés à se mettre au travail et les autres frères à subvenir aux besoins de ceux qui étaient véritablement dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins. Je continue le texte. « Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. » Verset 14. Le mot traduit par « éprouver de la honte » veut littéralement dire « se tourner sur soi-même ». L'idée est que celui qui mène une vie désordonnée doit réfléchir à son comportement et se rendre compte que sa conduite est incompatible avec sa foi. Alors, se voyant coupable devant Dieu, il se repentira et s'amendera. Comme c'était déjà la troisième fois que Paul devait corriger la même faute, probablement commise par les mêmes personnes, et que l'Église en était troublée, il fallait que les responsables prennent des mesures énergiques. Il donne l'ordre à l'ensemble des membres de se tenir écartés des brebis galeuses en évitant de les fréquenter. À cette époque, les croyants se réunissaient dans les maisons où ils mangeaient ensemble et célébraient le repas du Seigneur en souvenir de sa mort. Paul demande donc à ce que les portes de ces maisons ne soient plus grandes ouvertes aux gens oisifs, afin de les pousser à se remettre en question et à changer de mode de vie. Toutefois, il ne s'agit pas d'une exclusion complète. Ils peuvent assister au culte, mais probablement pas rompre le pain avec le reste de l'assemblée. L'objectif de toute mesure disciplinaire administrée par une église est d'amener le pécheur à reconnaître ses fautes afin qu'il puisse être rétabli dans la communauté. Je continue le texte. « Toutefois, ne le traitez pas en ennemi. Reprenez-le comme un frère. » Verset 15. Le mobile d'une telle action n'est pas de punir quelqu'un qui vous a cassé du sucre sur le dos, qui vous a enquiquiné ou soutiré de l'argent, mais l'amour, car, comme je l'ai déjà dit, l'objectif recherché est la repentance du fauteur de troubles et sa réintégration complète dans l'Église. Ensuite, on passe l'éponge sur le mal qu'il a pu faire, tout comme Dieu nous a pardonné nos péchés. Dans une autre épître, l'apôtre écrit « Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi, qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. » Ici, Paul m'avertit que d'une part, ce n'est pas parce que je reprends mon prochain qui vit dans le désordre que je lui suis supérieur, et d'autre part, je dois prendre garde à moi-même afin de ne pas tomber. Je continue le texte. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Verset 16. En grec, cette bénédiction finale commence par « maintenant ». La première requête de Paul pour les Thessaloniciens est la même que dans les autres épîtres. Il demande à Dieu de leur accorder la paix. Habituellement, dans notre culture, on comprend ce mot comme signifiant le calme, la tranquillité, le contentement et le sentiment de bien-être quand tout va bien. Mais cette paix est très superficielle, fragile et précaire. Un rien la fait disparaître. Par contre, la paix qui vient de Dieu est une confiance profonde que tout est bien entre soi-même et le maître de l'univers à cause d'une part de sa souveraineté sur toutes les circonstances de la vie, même fâcheuses, et d'autre part, à cause de l'assurance d'avoir ses péchés pardonnés et effacés pour l'éternité. Le croyant peut alors jouir de bénédictions dans le temps présent et regarder l'avenir avec confiance car il sait qu'il a sa place assurée dans le royaume des cieux. Ça, c'est la vraie paix de Dieu et elle est indépendante de tout ce qui peut arriver ici-bas. À la fin de la première épître, Paul appelle le Père le Dieu de paix. Ici, il appelle Jésus-Christ le Seigneur de paix. En grec, c'est exactement la même expression dans les deux cas. Ce qui veut dire que pour Paul, Dieu le Père et Jésus-Christ le Seigneur sont des personnes distinctes, mais interchangeables. Le Père est Seigneur et Jésus-Christ est Dieu. La seconde requête de Paul en faveur des Thessaloniciens est que le Seigneur soit avec vous tous. Cette prière n'a évidemment rien à voir avec le fait que Dieu étant omniprésent, il est forcément partout et donc avec ses lecteurs. En fait, l'apôtre demande à ce que la présence de Dieu se manifeste dans la vie des Thessaloniciens de manière à ce qu'ils soient persévérants dans les épreuves, surtout face aux persécutions qu'ils subissaient à cause de leur foi. Le psalmiste écrit « Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. » Avant de mourir et quitter cette terre, Jésus avait déjà promis à ses disciples qu'il serait avec eux. Je résume le passage. « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui sera éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Vous le connaissez ?» parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Et le jour même où il est monté aux cieux, il leur a dit, « Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Fin de citation. Je continue le texte de Paul. « Cette salutation est de ma propre main, à moi, Paul. C'est ainsi que je signe toutes mes lettres. C'est là mon écriture. » Verset 17. Dans l'Antiquité, on avait l'habitude de dicter une lettre à un secrétaire, puis de l'authentifier par sa signature et quelques mots autographes. L'apôtre termine plusieurs de ses épîtres en les certifiant conformes de cette manière. Je cite les passages. « C'est moi, Paul, qui écris cette salutation de ma propre main. Vous remarquez ces grandes lettres, c'est bien de ma propre main que je vous écris. Moi, Paul, je vous adresse mes salutations en les écrivant de ma propre main. Ne m'oubliez pas alors que je suis en prison. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ces dettes et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi tu as une dette à mon égard. C'est ta propre personne. Fin de citation. C'était particulièrement important pour Paul d'authentifier ses écrits parce qu'au premier siècle de notre ère, les fausses doctrines allaient bon train par des lettres soi-disant apostoliques qui circulaient dans les églises. Les auteurs sacrés qui furent inspirés par le Saint-Esprit pour rédiger le Nouveau Testament avaient toujours à cœur de s'assurer que leurs lecteurs soient informés de la vérité et sachent reconnaître les manuscrits falsifiés. En ce qui concerne les Thessaloniciens, ils avaient été trompés par des faux frères qui leur avaient dit que le jour du Seigneur était déjà là et donc qu'ils avaient manqué le rendez-vous de l'enlèvement de l'Église. Comme Paul leur écrivait pour les mettre au clair sur ces questions, il était indispensable qu'il prouve que c'était bien lui qui était l'auteur de ces deux lettres. Je finis maintenant la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Verset 18. Paul termine en mentionnant la grâce de Dieu qui est une faveur non méritée. C'est aussi, peut-on dire, la perche que dans son amour, Dieu tend aux pécheurs, et tous ceux qui la prennent sont sauvés et ont la vie éternelle. L'avez-vous saisi?